Bienvenue sur Ils l'ont fait, le nouveau podcast de Digiformag. Je m'appelle Pascal et chaque mois, j'ouvre notre micro à un maker du monde de la formation professionnelle. Il ou elle nous dévoilera l'une de ses réussites en 20 minutes chrono. Une belle manière de vous informer, mais surtout de vous inspirer. Bonne écoute! Alors bonjour Alison, donc je suis ravie de te recevoir pour ce deuxième podcast de Ils l'ont fait. Alors, avant que tu nous parles de toi et de ton entreprise, déjà, dis-nous ce que tu as fait et surtout réussi en 2021.
Alors, ce que j'ai fait et ce que j'ai réussi, c'était de transformer un outil à la base plutôt issu du monde du jeu vidéo, qui est la réalité virtuelle, en outil de formation et de sensibilisation. Et ça, c'est vraiment une fierté qu'on a au sein des bureaux chez Univers. C'est cette envie de s'approprier cette technologie pour en faire quelque chose d'utile. On fait de la réalité virtuelle en formation depuis un moment, hein, depuis 2014. Et pour le coup, il y a eu une vraie accélération et une vraie place qui a été donnée à cette technologie ces dernières années.
Est-ce que tu peux nous dire justement les deux formations que vous avez créées avec ton équipe, auprès de quelle entreprise c'était ?
On en a créé bien plus que deux, mais c'est vrai qu'il y en a deux qui sont un peu marquantes de par les usages qui sont un peu différents. C'est deux exemples, en fait, entre autres. On a adoré travailler avec un géant de l'industrie médicale qui s'appelle Stryker, qui crée des implants vertébraux pour donc mettre dans les vertèbres des gens et réparer des fractures vertébrales. Et donc, qui agit dans le secteur médical. Et ce qu'on a adoré vraiment avec ce client, c'était un peu la portée médicale est très très forte à forte dimension humaine du projet où on a réussi à créer une solution qui permet à des formateurs et à des chirurgiens de se retrouver dans un même bloc opératoire, peu importe où ils sont dans la vraie vie. Et donc, ils se retrouvent dans ce bloc virtuel ensemble et ils peuvent vraiment, en tout cas, le formateur peut apprendre aux chirurgiens à réaliser toute la procédure opératoire en réalité virtuelle.
Alors, la petite anecdote que tu m'avais racontée sur cette mission, c'est que pour bien concevoir la formation, en fait, en VR, tu avais été convoqué par Stryker pour, on va dire, t'entraîner sur un cadavre, si je ne dis pas de bêtises.
Effectivement, bon, convoqué est un bien gros mot, mais en tout cas, on avait été invité à bien se rendre compte en fait, de ce que c'était que toute la procédure pour la reproduire au mieux et de manière la plus fidèle et réaliste possible en réalité virtuelle. Donc, on avait été effectivement invité à le faire en vrai sur ce qu'on appelle des cas de lab, des cas d'université où on peut s'entraîner sur effectivement des corps qui ont été donnés à la science. Et pour le coup, on avait mis en place des implants vertébraux et l'objectif, c'était vraiment de mieux comprendre et de mieux ressentir en fait toutes les différentes petites choses, le feeling en fait de l'opération qui fait la différence. Auprès d'un chirurgien expérimenté, l'idée, c'est que quand il enfile le casque de réalité virtuelle, il ne soit pas dans un espèce de simulacre où il ne va pas retrouver le feeling, parce que le feeling est très important dans ce secteur-là. Et donc, l'idée, c'était vraiment qu'il puisse retrouver les mêmes sensations dans un bloc opératoire, malgré le fait qu'il avait un casque sur la tête et des manettes entre les mains. Et donc, c'est vraiment effectivement quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec ce client-là, en tout cas, et dont on est très fiers aujourd'hui.
Et pour toi, en fait, quand tu abordes cette technologie auprès de tes clients, quels sont un peu les arguments que tu mets en avant pour défendre la VR ou en tout cas pour dire que c'est un bon moyen de faire de la formation professionnelle ?
Pour le coup, nous, la réalité virtuelle, on prête une attention particulière au fait qu'un de ses travers, c'est qu'elle peut être gadget selon la positionne dans le secteur de la formation. Donc, on est partisans de la réalité virtuelle en formation du moment qu'elle répond à certains critères, notamment le fait que la formation par la pratique est soit impossible, soit trop compliquée, soit trop lente ou trop chère, en fait, tout simplement. Toutes ces conditions-là font que on peut alors gagner en temps et en efficience à passer par une simulation en réalité virtuelle.
Ouais, ça veut dire que parfois, tu as eu des personnes qui t'ont demandé de transformer une formation en VR et tu as préféré refuser en partant du principe que ça ne serait pas forcément le meilleur outil.
Ah bah clairement, c'est vrai qu'on a toutes sortes de demandes au quotidien qui arrivent dans notre boîte mail et on peut tout faire avec cette technologie, mais c'est pas une raison de le faire pour autant. C'est un peu La complexité de cette technologie, c'est que basiquement tout est possible. On peut reproduire n'importe quel type d'environnement, n'importe quelle situation, et on peut créer n'importe quelle simulation à l'intérieur dans laquelle l'apprenant va pouvoir interagir. Mais même si on peut tout faire, ce n'est pas une raison de le faire. Et la réalité virtuelle, c'est avant tout conçu et adapté à faire de la mise en situation avec un utilisateur qui devient acteur en fait, et qui est dans l'action pédagogique, dans l'interaction. Et qui va pouvoir faire de la pédagogie active. Et typiquement, quand on nous demande de développer des modules, on est sur de l'apport théorique pur. Alors, on va dire à nos clients, faites une vidéo, faites un MOOC, faites autre chose. Mais la réalité virtuelle, pour le coup, n'est pas du tout adaptée à faire de l'apport théorique auprès de vos apprenants.
Ouais. Et tu as eu des retours un petit peu là de l'équipe des équipes de Striker pour voir un peu les feedbacks des
Bah, eux, pour le
formateurs
coup,
et du.
ils l'utilisent vraiment bien à travers toute l'Europe. C'est vraiment ils ont été très précurseurs sur cet usage-là. Vraiment pour avoir un peu plus de détails sur le projet, je vous invite à aller voir notre site internet. Mais ils l'utilisent quand même énormément. Et il y a cette espèce de double usage qui est fait, qui permet à l'outil d'être à la fois un outil de communication pour présenter en fait le produit en soi, qui est un
Ouais.
implant vertébral, et à la fois le côté premier niveau de formation où, OK, maintenant j'ai compris comment la théorie fonctionne, comment on met en œuvre concrètement cet implant auprès d'un cas patient. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils utilisent pas mal. On a eu beaucoup d'acteurs de la logistique aussi en ces derniers temps.
Ouais.
La logistique a connu un boom énorme et c'est déjà un métier qui est beaucoup en tension traditionnellement, notamment sur les périodes de fêtes de fin d'année, où on a d'un coup 500, 1000 nouveaux intérimaires qui arrivent et qui doivent arriver sur le site en même temps. Comment on peut former aujourd'hui un tel volume de nouveaux collaborateurs aux règles de
Ouais.
sécurité, aux règles de préparation des commandes. C'est un sujet qui est vraiment en tension permanente chez ces acteurs-là. Et on a eu la chance de travailler avec un acteur de la logistique justement sur comment on résout ce problème, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les intérimaires qui arrivent sur site, ils soient déjà compétents au niveau des règles de sécurité à respecter et également qu'ils aient déjà pu ou eu l'opportunité de virtuellement prendre en main leur poste de travail, notamment lors de la préparation de commandes.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que finalement, ce n'est pas un secteur qui, à la base, est ultra, enfin, qui paraît pas en tout cas ultra innovant. Et les gens qui y travaillent, on se dirait non plus. Mais en tout cas, ça n'a pas posé de problème et il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de complexité pour les gens, pour les apprenants.
Alors ça, c'est tout notre enjeu. On a plusieurs enjeux, notamment des leviers de pédagogie à faire auprès des utilisateurs finaux et des formateurs. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a une bonne expertise en événementiel qui nous a permis de construire une vraie culture de ce qu'on appelle l'UX design en interne. Donc c'est vraiment cette expérience utilisateur qui permet de faire très simplement des actions qui pourraient être compliquées si on ne les pensait pas vraiment pour tout type de public. Et là-dessus, on a vraiment construit une expertise qui vient de plein de secteurs différents, mais notamment notre expérience événementielle, qui est que ça doit être très facile à comprendre, facile à utiliser, et que l'apprenant puisse vraiment se concentrer sur le message pédagogique plutôt que sur l'utilisation de la réalité virtuelle en soi, qui ne doit pas venir quelque part perturber ou influer son apprentissage.
Et pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient que c'est inaccessible d'un point de vue financier, alors déjà, est-ce que tu peux nous dire sans qu'on rentre dans les détails techniques, mais combien de temps tu mets pour concevoir ce type de formation? Est-ce que techniquement, c'est quand même très complexe? Et au niveau du prix, combien ça peut coûter?
Alors, au niveau de... Est-ce que c'est complexe? Ça dépend de l'équipe que tu as, clairement. Non, non, au niveau des délais, nous, aujourd'hui, on est capable de sortir des projets de toute taille. On a fait des projets qui étaient plutôt longs, plutôt conséquents, et qui ont duré 1 an et demi. On a aussi fait des projets extrêmement courts qui en 1 mois, étaient réalisés. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de la nature de l'expérience à créer. Je dirais que la bonne moyenne aujourd'hui pour un développement, c'est 4 mois. En termes de coûts, on va débuter. Ça va être complètement utopiste d'envisager quelque chose qui soit de la vraie réalité virtuelle interactive en dessous de 20 000. Donc le prix, on
D'accord.
va dire plancher, ça va être plutôt 20 000 euros. On peut avoir des budgets un peu inférieurs, mais plutôt sur de la vidéo à ce moment-là. Et c'est pas du tout le même objectif. Là, on est plus sur de la présentation. Pour le coup, la réalité virtuelle interactive en termes de développement, ça reste un certain coût. Après, de plus en plus, il y a des modules de formation qui ont été financés d'une manière ou d'une autre par l'État, par diverses subventions, par divers organismes, et qui sont de l'ordre du bien public et accessibles à tous. Je pense
OK.
notamment, voilà, aujourd'hui, on a la chance de collaborer avec Pôle emploi. Et typiquement, on est en train de construire avec eux un projet où la finalité, ça va être la livraison de 6 modules de formation sur 6 secteurs d'activité différents qui sont de l'ordre du bien public, c'est-à-dire que n'importe qui souhaite en faire l'usage pourra le faire. Donc, on peut déjà, avec un budget de 0 euros, enfin 0 euros, j'exagère, il y a quand même le prix du casque, mais aujourd'hui, un casque de réalité virtuelle, c'est 350 euros dans n'importe quelle
Ouais,
firme.
les prix ont largement baissé aussi sur les casques.
Exactement, il y a eu quand même une grosse, grosse baisse des tarifs, que ce soit côté développement, parce qu'on maîtrise mieux la technologie aujourd'hui, donc on va plus vite sur le sujet, ou que ce soit côté matériel, on est passé de un poste qui coûtait en moyenne 3 500 euros en début 2020. Aujourd'hui, on est sur 350 euros le casque. C'est pas la même technologie, on est un peu moins dans la précision sur l'environnement et c'est un peu moins joli, disons-le. Mais en tout cas, en termes de déploiement, on a 10 casques aujourd'hui pour le prix d'un seul, il y a seulement 2 ans.
Ouais. Mais alors, moi, ce que je trouvais intéressant dans votre parcours chez Univers, c'est qu'à la base, vous avez commencé avec la VR, mais sur un secteur, on va dire, plus marketing. Et puis, au fil des mois, tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un axe à creuser sur la formation pro. Donc, même si tu n'es pas formatrice et que tu n'es pas OF, comment tu vois l'année 2022 dans ce secteur et puis même dans les 10 années à venir, comment tu vois le monde de la formation pro évoluer?
Bah, ce qui est amusant, justement, tu me fais une transition toute trouvée, c'est
Ah, mais tant
que,
mieux.
en tout cas, le constat qu'on a pu avoir de notre côté, c'est qu'effectivement, on a fait une bascule, on faisait beaucoup de communication et de marketing en 2017, notamment, et on a eu vraiment une bascule formation cette année-là, où on a eu un déclic sur l'impact que cette technologie de réalité virtuelle pouvait avoir sur les apprenants, avec un client notamment qui nous faisait présenter un produit à des fins marketing à la base, et en fait, en créant la simulation, on s'est rendu compte que toutes nos équipes en interne étaient capables de nommer correctement tous les éléments, de réaliser la procédure, et le tout sans aucun bagage du secteur qui était concerné, à savoir le secteur des plutôt infirmiers. Et en fait, je trouve les secteurs ont fort à apprendre l'un de l'autre, et on le voit beaucoup dans le médical, la communication et la formation. Dans tout ce qui va être dispositifs chirurgicaux, notamment, c'est très lié. En fait, ils communiquent par de la formation. Et la morale est un peu la conclusion de mon propos, c'est que pour moi, la formation, elle doit évoluer vers beaucoup plus d'accessibilité et de format court. Quand je parle d'accessibilité, je pense surtout à la dimension facile d'accès dans le temps. Et contenu facile à consommer. Aujourd'hui, quand on veut se former, c'est quand même un peu un parcours du combattant, malheureusement. On a ce côté très réglementaire avec le financement des OPCO au milieu, le fait que la formation, elle doit être normée, certifiée Calliope, sinon elle n'est pas prise en charge, etc. Et je trouve que ça met beaucoup de freins, en fait, dans le fait que n'importe quel collaborateur puisse se former tout au long de sa vie. Et c'est assez dommage. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à décloisonner un peu et à alléger ce secteur, à proposer des contenus de manière beaucoup plus fréquente, plus facile à consommer, quitte à ce qu'ils soient plus courts et moins denses, mais qu'on commence à prendre un peu cette habitude et que ça devienne vraiment un réflexe de se former tout au long de l'année, tout au long de sa carrière, et pas uniquement à certains moments clés par grosse session. Donc, je pense qu'effectivement, on a ce côté un peu snack pédagogique qui gagnerait à prendre un peu de terrain. C'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Le micro-learning, typiquement, fait partie de ces actions à mettre en œuvre. On a aussi plein de dispositifs comme la réalité virtuelle qui permettent au final de condenser, de rendre très court, très pragmatique et très facile d'accès des choses qui pourraient être compliquées. Mais en tout cas, il y a cette envie, en tout cas, de ma part, qui est partagée par mes collaborateurs et par beaucoup de nos clients, d'arriver à rendre l'acquisition de connaissances et de compétences plus accessible, plus courte et plus pratique, pour pouvoir être plus facile à consommer tout au long de l'année et tout au
Et
long de la vie du collaborateur.
justement, toi, donc tu es dirigeante, hein, tu as une entreprise, aujourd'hui vous êtes une quinzaine de collaborateurs. C'est des questions que tu te poses aussi au quotidien, j'imagine, comment tu vas donner un peu de temps à tes équipes pour qu'elles puissent se former. Est-ce que vous avez mis en place des choses chez Univers ou pas encore? C'est dans les cartons pour 2022.
C'est dans les cartons. On a déjà expérimenté l'année dernière un format où on dédiait plus ou moins une journée par mois à l'apprentissage, à l'auto-formation. La problématique qu'on a chez Univers, c'est que les compétences pour créer des modules en réalité virtuelle, c'est tellement spécifique qu'on est obligé d'aller chercher un peu la compétence technique dans le secteur du jeu vidéo. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des formations vraiment qualifiantes et vraiment intéressantes qui soient justement normées correctement pour rentrer dans les dispositifs de formation classique. Typiquement, pour donner une anecdote et te montrer un peu le côté déconnecté, le jour où je me suis tournée vers notre OPCO pour... dont je ne citerai pas le nom, pour faire monter en compétences mes collaborateurs. On avait des problématiques d'optimisation au tout début de l'entreprise, on avait des expériences qui pouvaient être plus fluides. On le savait très bien, mais on ne savait pas comment le faire. Et donc, je me suis tournée vers notre OPCO pour voir quel type de formation on pouvait proposer à nos collaborateurs. Et j'ai eu le malheur de parler de développement, et du coup, ils m'ont proposé tout de suite des formations développement HTML. CSS pour faire des sites web, ce qui n'a absolument rien à voir, mais alors rien à voir du tout avec notre cœur d'activité et qui n'intéresse pas le moins du monde mes collaborateurs parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, j'ai dû m'asseoir sur le financement dont on aurait pu bénéficier et j'ai payé un intervenant, donc un acteur, un collaborateur d'un studio de jeux vidéo pour venir pendant une semaine parmi nos équipes, les former, les aider à monter en compétences. Et ça, pour le coup, bien entendu, ce n'était pas pris en charge.
Ouais, donc ça a été ta démarche. Et en même temps, quand tu es sur des secteurs aussi innovants, effectivement, alors à moins d'en parler à France Compétences et de travailler avec eux sur ces sujets, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de métiers qui sont en devenir, donc effectivement, qui ne sont pas, comme tu disais, normés. Il n'y a pas forcément des formations prises en charge. Donc, c'est sans doute aussi aux dirigeants de mettre un peu la main à la poche. Et puis, pas qu'aux dirigeants aussi, je pense qu'aux individus. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Tu évoques le CPF, sans doute, effectivement. Après, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans une démarche qui correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure, de ce côté du contenu plus petit à consommer plus facilement. On va avoir tendance à se tourner vers des contenus académiques en ligne un peu spécifiques, un peu spécialisés, ou alors à faire directement appel aux éditeurs de moteurs 3D, comme Unity ou Epic en ce qui concerne Unreal Engine. Parce que pour le coup, eux, ils maîtrisent clairement leur sujet. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver du contenu de qualité qui soit créé par eux-mêmes, qu'on puisse consommer. C'est un vrai enjeu, je pense, aussi hein, pour les éditeurs de logiciels aujourd'hui dans le monde du développement, que de proposer en fait une sorte d'académie vraiment un peu avancée aussi et pas que pour les débutants. Parce que souvent, la problématique, c'est ça. C'est que quand on est débutant, on a toutes sortes de formations accessibles. Quand on est plus dans une logique de perfectionnement, bizarrement, il y a beaucoup moins de monde au portillon et ça devient un peu plus compliqué.
Alors, il y a une question, en tout cas, je pense que tu seras la bonne personne pour y répondre. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le métaverse? On en parle beaucoup en ce moment. Je pense que les gens qui nous écoutent ont forcément entendu ce terme, l'ont vu, l'ont lu, ont pu même en débattre. J'aimerais bien avoir ta définition et puis surtout ce que tu en penses.
Ça tombe bien que tu insistes plus sur ce que j'en pense plutôt que la définition parce que je pense qu'elle n'est pas très arrêtée aujourd'hui. Chacun a la sienne. Non, le métaverse, c'est mettre un mot sur un concept qui trotte dans la tête de tout le monde depuis l'arrivée de la réalité virtuelle sur le marché grand public, on va dire en 2016. On s'imagine tous dans clairement le film de Steven Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Qui est lui-même inspiré d'un bouquin que j'invite les auditeurs à lire, qui est assez intéressant, mais un peu adolescent sur les bords aussi quand même, disons-le. En tout cas, voilà, ce postulat d'avoir un univers totalement virtuel, parallèle, dans lequel on est quelque part une existence plus consistante que la relation qu'on a au virtuel aujourd'hui, c'est plus ou moins ce qu'on appelle le métaverse. Si on devait résumer ça en quelques mots, en faisant un parallèle, on dirait qu'on prend World of Warcraft, pour les plus geeks d'entre vous, et ce côté multi-utilisateur en ligne, on le généralise à la réalité virtuelle. Et ça veut dire que, basiquement, demain, vous enfilez un casque et vous avez tout un monde de possibilités qui s'offre à vous. Et vous avez votre avatar personnalisé dans cet environnement. Quelque part, vous rentrez dans la peau d'un personnage et de votre avatar virtuel, qui peut être un peu plus ou moins éloigné de ce que vous êtes dans la vraie vie. Mais ça, c'est une question d'ego après, je pense. Et pour le coup, effectivement, c'est devenu un peu le fer de lance de Facebook en la matière, qui a donc annoncé ça fin octobre 2021, qui en fait vraiment un gros pan de sa stratégie jusqu'à changer de nom. Mais je pense que ça, ils avaient aussi besoin de le faire. Moi, je pense que typiquement, sur le principe, c'est génial, c'est une très bonne technologie, mais qu'elle n'est pas forcément entre les mains de la bonne entreprise en termes de direction. Voilà, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais clairement aujourd'hui, il y a du sens, il y a plein de bonnes raisons de rendre notre existence virtuelle plus consistante et plus palpable, plus persistante aussi, d'avoir cette dimension. J'ai un avatar en continu qui évolue avec moi-même tout au long de ma vie. Mais je pense que ces bonnes raisons, typiquement, ce n'est pas pour faire plus de publicité ciblée et plus de réseaux sociaux. Donc, d'où le fait que voilà, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Je pense que pour que vraiment le métaverse, ça donne quelque chose d'intéressant, on a besoin que ce projet soit mis au service de causes plus nobles, on va dire, entre guillemets, que ce soit l'éducation, la formation, la culture, le secteur de la créativité, de l'ingénierie. Et vraiment, c'est à des sociétés aujourd'hui de s'emparer de... C'est à toutes ces industries-là de s'emparer de ce sujet pour en créer des usages qui vont être utiles et avoir du sens.
Et puis du coup, je te coupe, Alison, mais comme il y a pas mal d'OF qui nous écoutent, c'est vrai qu'aujourd'hui, les OF, est-ce que tu les sens un peu concernés par ces questions d'innovation? Est-ce que tu as des retours, justement? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils se demandent si finalement, ce n'est pas la fin de la formation, on va dire, traditionnelle?
Je pense que ces questions-là, il y a déjà beaucoup de formateurs qui se les posent. Clairement, oui. Enfin, on ne peut pas dire que c'est la fin, mais il y a une grosse mutation quand même de la formation qui parce qu'on est en France et qu'on a toujours beaucoup de récalcitrants à chaque nouveauté, prend beaucoup de temps. Mais honnêtement, on a aussi des formateurs qui sont hyper impliqués et qui sont ambassadeurs de ce genre de nouvelles technologies. Je pense que ce n'est pas vraiment une fin, mais c'est plutôt une page qui se tourne. Il faut comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils. La question, c'est comment on les positionne pour garder un rôle prépondérant et intéressant pour les humains, les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour la montée en compétences de tous. Et il faut arriver à préserver le rôle de guide dans l'acquisition de la connaissance et du savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la logique très descendante, transversale d'un cours littéral où on a un interlocuteur qui parle et les autres qui écoutent, c'est plus très dans l'air du temps. On voit ça beaucoup avec les cours en ligne, les MOOC, etc. Ça va être adapté hein, pour certains petits rappels, pour certains secteurs d'activité, pour faire des petits points théoriques de temps à autre, c'est plutôt bien. Mais du coup, les apprenants, ils attendent autre chose de leur formation en présentiel. Ils attendent vraiment du relationnel, du travail en groupe, du collectif, des expériences innovantes qui changent, qu'ils ne peuvent pas forcément vivre chez eux. Et nous, ce qu'on constate, c'est que il y a toujours une petite frange de bons ambassadeurs qui sont persuadés qu'effectivement, il faut mixer, on va dire, et interfacer différents dispositifs et différents outils pédagogiques. Et puis, il y a des éternels réfractaires qui ont quelque part peur d'être remplacés. Et on œuvre beaucoup, nous, auprès des formateurs, justement, on accompagne aussi nos clients là-dedans. C'est la technologie, elle n'est pas là pour vous remplacer, elle est là pour fournir un outil différent, innovant, ludique, qui va permettre à vos apprenants et à votre public cible de passer un bon moment tout en faisant de l'acquisition de compétences et connaissances. Et du coup, pour les accompagner là-dedans, on travaille beaucoup sur différents aspects. On a le côté simplifier un maximum l'utilisation de la technologie, où là, on a développé des logiciels en interne pour faciliter la mise en œuvre de 3, 4, 5, 10 casques en parallèle dans un espace de formation.
Oui, parce que malgré tout, on est en 2022 et on voit quand même que des fois, même lancer un Zoom, c'est pas simple, en fait.
Donc, je ne vois pas de quoi tu parles.
Non, pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Alors j'espère que pour vous que ça marche, que vous avez des bons résultats et que effectivement ça permet de déstresser un peu tout le monde sur la technologie et que en tout cas en 2022, vous continuerez sur ce tracé en fait, hein.
Bah, c'est tout l'objectif, hein. Nous, vraiment, on est là pour accompagner en fait à cette mutation de ce changement de métier. On est là pour former les formateurs, on est là pour leur fournir des outils, on est là pour leur faire se rendre compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est très facile à prendre en main, que ça s'intègre bien dans un cursus ou un parcours de formation pour peu que l'application soit bien pensée. Et là aussi, il y a un attention. Attention avec quel studio vous travaillez, mesdames, messieurs. Déjà, des studios qui vous proposent des expériences très très longues, ce n'est pas une bonne idée. Il faut favoriser typiquement des contenus courts d'une dizaine de minutes pour voilà, permettre d'alterner entre des sessions où on est en réalité virtuelle et des sessions plutôt de débrief ou d'échange qui vont suivre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment notre travail au quotidien. On bosse beaucoup sur ce sujet-là, notamment à travers le projet qu'on a avec l'IFRA et Pôle emploi, pour s'adresser à des personnes éloignées de l'emploi et de la formation. Et là, pour le
OK.
coup, la mission, c'est vraiment de transformer la manière dont on forme ces gens-là aujourd'hui. Donc, c'est aussi
Je
accompagner les
pense que
formateurs.
quand vous aurez un peu plus de recul, on pourra effectivement en rediscuter et faire un peu le bilan de votre première année sur ce projet. Ça sera pas mal qu'on puisse refaire un peu
Écoute,
le point et
avec
peut-être
plaisir.
avoir aussi un apprenant, avoir aussi une personne qui l'a testé pour nous dire à quel point ça a été efficace ou pas. Voilà, à
Écoute,
prévoir
avec grand
pour
plaisir.
2022.
On se cale ça en 2022-2023.
Ça marche. Alors pour finir, du coup, j'ai deux questions bonus, Alison. Enfin, tu les connais, hein, je te les ai passées, donc tu le sais, tu étais préparée. Si tu devais dispenser une formation, alors ça serait laquelle?
Tu sais que j'essaye en plus en ce moment de placer mes billes là-dessus. Pour l'instant, je suis au stade du jury, donc voilà, bientôt. Non, vraiment, j'aimerais en toute modestie et humilité peut-être revenir sur mon parcours entrepreneurial parce que mine de rien, ça fait 7 ans que j'ai monté Univers Studio et j'en ai appris pas mal. Je me suis aussi pris les pieds dans le tapis à de multiples reprises. Et j'ai déjà échangé avec des étudiants en classe plutôt entrepreneuriat et gestion d'entreprise. Et ils ont une vision très amusante de la chose, notamment à base de levée de fonds et de toutes sortes de choses comme ça. Et j'ai envie d'avoir ce contre-pied un peu et de leur dire qu'entreprendre voilà, sans levée de fonds et avec des clients et des produits et des projets, ça marche aussi. Et vraiment, oui, pouvoir un peu les aider à mettre un pied à l'étrier, à avancer dans leur projet entrepreneurial, c'est ouais, de donner une formation là-dessus, je pense que c'est un sujet
Ah bah
qui
écoute,
m'animerait pas mal.
si, s'il y a des écoles, notamment de commerce, qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Alison. Et toi, là, en 2022, si tu avais une formation à faire, si tu pouvais casser ton CPF, tu tirais vers quoi?
Clairement, moi j'ai un talon d'Achille que je souhaiterais corriger en 2022. Il est grand temps, c'est le volet plutôt gestes qui sauvent, premiers secours et petite médecine, c'est-à-dire juste avoir la base de compréhension de certaines maladies typiques, comme tout ce qui va être virus et bactéries de base. Mais j'aimerais bien effectivement avoir ce petit bagage qui permet d'intervenir sans aggraver une situation quand on a quelqu'un qui fait un malaise, qui se coupe, qui s'étouffe,
Et
et
tu as
d'être
passé la
capable.
formation SST? Vous n'avez pas fait une formation
Eh bien non, mais tu vois, ça fait partie des enjeux, je pense, de 2022, c'est que tout le monde soit à peu près opérationnel là-dessus. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait être capable de faire. Et on en revient un peu à ce qui ne va pas dans notre secteur aujourd'hui quand même. C'est ce côté, la plupart des gens avec qui j'échange et qui ont fait cette formation-là, c'était soit lors de leur journée d'appel à la défense, autant te dire que ça date un peu, soit ils l'ont fait de leur propre chef plus récemment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi devrait être un basique qui est révisé tous les ans et n'importe quel citoyen devrait pouvoir... appliquer à minima les gestes, les premiers secours et les gestes qui
Oui, un
sauvent.
peu comme le permis de conduire, finalement, d'avoir un rappel tous les 10 ans, tous les 5 ans, on te refait une formation et au moins t'oublies pas. Enfin, t'oublies pas, ou en
Bah,
tout cas, t'es
exactement,
inversé
tu vois, le
aux
permis de
alertes.
conduire, on ne l'oublie pas parce que typiquement, on est quand même nombreux à conduire, bon, pas tous les jours, mais fréquemment, alors que typiquement, une situation de type premier secours, on ne la vit pas tous les jours, on ne la vit pas tout le temps. Et le jour où un cas se présente, on est tellement, je pense, paniqué à l'idée de mal faire, on préfère ne pas agir. Et si on avait l'occasion de pratiquer, de s'entraîner plus régulièrement, je pense qu'il y aurait un vrai impact sur ce type de choses.
Bon, bah écoute, ça marche. Je te donne rendez-vous en décembre pour voir si tu l'as faite. On
Bah écoute,
verra.
je l'aurais faite, je l'aurais peut-être même faite en réalité virtuelle pour pouvoir la rendre plus accessible et disponible à tous.
Ah, bah, ça serait cool, tu nous diras. Est-ce que tu avais une dernière chose à nous partager, à annoncer avant qu'on finisse ce podcast?
Eh bien écoute, c'était très plaisant d'avoir cet échange avec toi. J'espère que le contenu en intéressera plus d'un. Et c'était voilà, c'était des vrais enjeux. Je pense que les sujets innovation et formation sont vraiment des enjeux des années à venir. L'État s'y intéresse fortement, on le voit beaucoup avec beaucoup d'appels à projets et de subventions publiques en ce moment qui ruissellent, on va dire, sur ce secteur d'activité. C'est l'occasion aussi de transformer. C'est une opportunité à saisir. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'argent public investi dans ce secteur-là depuis pas mal d'années pour justement transformer un peu la manière dont on fait les choses. Et c'est une belle opportunité à saisir pour quiconque s'intéresse un peu à l'innovation pédagogique. Donc pour le coup, voilà, si certains de nos auditeurs hésitent à franchir le pas, sachez qu'il y a beaucoup de dispositifs qui accompagnent ce genre de démarche en ce moment. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, je peux en fournir.
Ah bah c'est super sympa, écoute. Donc bah écoute, je te dis à bientôt. On s'en reparlera, je pense, en tout cas, tous ces sujets courant 2022. Bon courage à toi et à ton équipe pour les futurs projets. Et
Merci,
puis
bon courage à toute l'équipe Digiforma.
à très bientôt.
À très
Ciao,
bientôt.
bye.